VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est midi à Kinshasa, 11h en temps universel. Emmanuel Macron aujourd'hui à Djibouti. La France cherche à garder son influence dans cette région stratégique qui suscite les convoitises des grandes puissances, notamment de la Chine qui y a ouvert en 2017 sa première base à l'étranger. Le chef de l'État français doit conclure sa journée par un dîner d'État à Addis Abeba, dans un pays endeuillé par le crash dimanche d'un Boeing d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, dont 9 Français. Et demain matin, il rencontrera les dirigeants de l'Union africaine avant de se rendre au Kenya, dernière étape de son périple est-africain, où il resta, le Kenya où il restera jusqu'à jeudi. Les travailleurs congolais, des commerçants chinois, libanais, indiens et pakistanais ont entamé lundi à Kinshasa un mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et exiger un salaire qui tient compte du nouveau SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur en République démocratique du Congo. Cette grogne sociale a paralysé les activités dans le plus grand marché de la capitale congolaise où boutiques, magasins et autres commerces sont restés fermés. Reportage Thierry Kamboudi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est dans cette ambiance que s'est ouvert lundi le marché central de Kinshasa. Près de 200 travailleurs congolais, des sujets chinois, indiens, libanais et pakistanais ont envahi les rues du plus grand marché de la capitale pour réclamer l'application du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, et des meilleures conditions de travail.
Ce qui se passe ici, on a un problème. Le président avait dit notre contrat de SMIG, on devait terminer ça d'ici le mois de janvier. Mais ça, on est en train de comprendre pas. Maintenant, parce qu'on signe un contrat, on est en train de continuer avec le même salaire.
Les Libanais nous font travailler durement avec un salaire maigre. Chaque jour, nous commençons le travail de 7h du matin jusqu'à 20h et pour ne gagner que 7000 francs congolais. Pas de transport, pas de salaire mensuel, nous sommes des journaliers. Nous voulons que le nouveau président élu, Félix Tshisekedi, puisse investir et écouter notre situation. Ces gens nous prennent pour leurs esclaves. Passer de 1680 à 7075 francs congolais, presque 4 dollars américains le jour, le nouveau SMIG peine à être appliqué dans le secteur privé. Atis Kabongo, le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, comprend la grogne sociale et rappelle à tous que force doit rester à la loi.
Le ministère du Travail était au courant de tout ce qui s'est passé au niveau du marché central et nous avons tant crié et rappelé tout le monde à l'ordre du respect des engagements que nous avons tous, gouvernement, syndicats, patronat. Nous nous sommes convenus que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit respecté. Alors il appartient à tout le monde de le respecter.
Ce mouvement social qui s'observe dans le secteur de l'emploi n'épargne pas les entreprises de l'État. Expert en matière de travail, le professeur Yves Daniel Ngavan appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités et à montrer l'exemple.
Cette grogne sociale est une conséquence à l'abandon de l'État dans le secteur de l'emploi. L'État a, depuis un moment, a laissé ses secteurs entre les mains de prédateurs en refusant de payer correctement ses fonctionnaires.
Les manifestants attendent une solution urgente du nouveau président de la République, Félix Tshisekedi, qui, par ses services, a promis son implication pour une solution urgente à cette crise sociale. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi soir qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat, cédant à la pression de la rue après plusieurs semaines de manifestations. Le scrutin présidentiel qui était fixé au 18 avril a été reporté. Aucune nouvelle date n'a été annoncée. Une nouvelle constitution algérienne sera soumise à référendum, a annoncé dans la foulée la présidence. M. Bouteflika a déclaré dans un communiqué que sa dernière mission serait de contribuer à jeter les bases d'un nouveau système qui sera entre les mains d'une nouvelle génération d'Algériens. Les partis en Guinée-Bissau ont commencé lundi à afficher leurs ambitions. Il faudra cependant attendre demain mercredi pour savoir si le scrutin législatif de dimanche, marqué par une forte participation, va permettre de dénouer une crise de plus de 3 ans au sommet de l'État. Après une journée calme à Bissau, le porte-parole du parti historique PAIGC a assuré que les électeurs avaient donné plein pouvoir pour administrer le pays à sa formation. Réaction de Marciano Silva, le secrétaire permanent du MADEM G5, aucun parti n'a eu la majorité absolue pour gouverner seul, une coalition est donc nécessaire. Le MADEM G15 a été formé par 15 députés frondeurs du PAIGC qu'ils ont amputé de sa majorité dans l'Assemblée sortante. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit discuter mercredi et jeudi à Washington avec les autorités américaines du financement des opérations de paix dont le budget est déséquilibré par la baisse de la contribution des États-Unis. De plus en plus alarmé par la trésorerie défaillante de l'ONU, M. Guterres multiplie depuis janvier les initiatives pour sensibiliser les États membres aux problèmes financiers graves auxquels est confrontée l'institution. Il y a consacré une rencontre mensuelle avec le Conseil de sécurité et a envoyé une lettre inquiète aux 193 membres des Nations Unies réunis récemment pour pousser à des solutions. Adopté chaque année en juin, le budget de l'ONU pour sa quinzaine d'opérations de paix, employant plus de 100 000 casques bleus, est de 6 689 milliards de dollars. Ici aux États-Unis, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a invité hier le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à s'exprimer devant le Congrès américain le 3 avril pour un message d'amitié au moment où les alliés européens se montrent méfiants vis-à-vis de Donald Trump. Depuis la mi-janvier, les Européens doutent de plus en plus ouvertement de l'attachement de M. Trump à l'OTAN après des informations du New York Times selon lesquelles le président américain aurait à de multiples reprises confié à de hauts responsables américains qu'il ne voyait pas l'intérêt de l'OTAN et que les États-Unis devraient s'en retirer. Le gouvernement américain a adopté lundi au Congrès une nouvelle enveloppe de 290 millions de dollars pour concrétiser l'engagement présidentiel à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida aux États-Unis. Eddie Sango.
Le président américain avait annoncé ce plan lors du discours sur l'état de l'Union au Congrès le 5 février. Le but est de réduire le nombre de nouvelles contaminations de 75% en 5 ans et de 90% en 10 ans par rapport aux quelques 38 000 contaminations annuelles actuellement dans le pays. La demande budgétaire vise à doter la prévention, principalement en augmentant la prise du médicament PrEP par les hommes ayant des relations homosexuelles, 2/3 des infections, et par les autres populations à risque, notamment les Noirs et les habitants des 48 comtés identifiés comme le foyer le plus actif de l'épidémie. Ces médicaments de prophylaxie pré-exposition, un comprimé par jour, protège presque à 100% d'une contamination par les VIH lors d'un rapport non protégé. Les gouvernements estiment que seulement 10% des gens pouvant en bénéficier le prennent. Les associations ont salué lundi la demande, mais relevé que les gouvernements avaient proposé parallèlement des sabres de budget qui ont aussi un impact dans la lutte contre les VIH.
Merci Eddy Sango. C'est le moment de vérité. Au Royaume-Uni, à seulement 17 jours du Brexit, les députés britanniques se prononcent ce soir sur l'accord de divorce avec l'Union européenne après les garanties de dernière minute que la première ministre Theresa May a annoncé à avoir décroché. Les deux parties ont annoncé des changements légalement contraignants à l'accord avec l'espoir qu'ils obtiennent l'assentiment des députés britanniques lors du vote programmé ce soir même. Le djihadiste français Mehdi Nemmouche a été condamné dans la nuit de lundi à mardi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Bruxelles pour assassinat terroriste commis en mai 2014 au musée juif de la capitale belge. Et puis au Venezuela, l'Assemblée nationale dominée par l'opposition a placé lundi le Venezuela en état d'alerte à la demande de son président Juan Guaido, estimant que la situation était calamiteuse dans le pays après quasiment plus de 100 heures de panne de courant. Le gouvernement a annoncé que mardi serait donc encore férié, faute de transport et de services de base. Et puis, sport, pour terminer, le parcours du Tour du Cameroun a été dévoilé en cyclisme. Le peloton aura droit donc à 8 étapes sur un total de 1140 km. La première ira de Akono-Linga à Mbang en passant par Abong, 136 km, tandis que la dernière se disputera de Bafia à Yaoundé sur environ 121 km. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon après-midi à tous sur le continent. Jean-Roger Villard à ce micro. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.